Cet entretien avec Arthur Keller, Stéphane Linou, Alexandre Boisson et Laurent Hayet porte sur leur travail de formation des élus sur l'anticipation des risques majeurs, climat, énergie, cyberattaque, pandémie. Il est diffusé en deux parties. Voici la partie 1. Pourquoi former les élus sur l'anticipation des risques majeurs? Quel est leur rôle? La partie 2 porte sur la question comment réagissent les élus? Que peuvent-ils faire concrètement sur leur territoire? Vous trouverez le lien vers la partie 2 en commentaire.
Bonjour et bienvenue sur Plan B. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Linou, Laurent Hayet, Arthur Keller, Alexandre Boisson. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
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 Vous me faites un très grand plaisir d'accepter cette invitation. Vous êtes auteur, vous êtes conférencier, vous êtes pour certains consultants, vous exercez d'autres métiers également et vous en parlerez. Si je vous ai réunis aujourd'hui tous les quatre, c'est pour parler d'une formation que vous menez auprès des collectivités territoriales, auprès des élus, anticiper les risques majeurs. Vous allez nous expliquer en quoi consiste cette formation et quels sont les messages principaux que vous livrez à vos publics. Vous nous parlerez des territoires dans lesquels vous êtes intervenu, comment vous êtes reçu, comment réagit le public à vos messages, quelles sont les idées intéressantes dont ils accouchent. Et puis, on finira sur que devraient concrètement faire les collectivités pour gagner en résilience face à des risques de nature, que ce soit énergétique, climatique, hydrique, agricole ou que sais-je, des cyberattaques, qui est un sujet qui est cher à plusieurs d'entre vous. Sans plus tarder, on va faire peut-être des présentations rapides. Je pense que notre public connaît certains parmi vous et aura le plaisir de découvrir d'autres parmi vous. Peut-être si on commence par Stéphane.
Oui, bonjour, pas de souci. Mais bonjour à tout le monde et merci Cyrus pour cette invitation-là, pour la présentation de la formation que nous avons co-construite à l'attention des élus. Donc Stéphane Linou, j'ai été élu, j'ai été conseiller général et conseiller municipal. Je suis conseiller en développement local, donc conseil auprès d'élus depuis une vingtaine d'années en collectivité. Et j'ai lancé le mouvement Locavor en France en 2008 où j'articulais l'alimentation et les risques. La sécurité intérieure, la sécurité nationale et le continuum sécurité-défense. Donc, en fait, en 2008, je partais de scénario qui était, imaginons qu'il y ait une pandémie grippale qui bloque les chaînes d'approvisionnement. Combien de temps on tiendrait sans se taper dessus, car nous ne sommes pas préparés et nous ne produisons pas notre nourriture autour de nous. Et plus récemment, j'ai voulu voir si cette question était pensée dans le monde de la production, dans le monde des risques et de la sécurité, et dans le monde de la gouvernance. Et donc, j'ai fait ce master spécialisé en gestion des risques sur les territoires où, justement, j'ai sorti ce rapport qui a donné lieu à une publication, à un livre. Et effectivement, nous ne sommes pas préparés à une rupture d'approvisionnement alimentaire et cela impacterait directement l'ordre public, la sécurité intérieure, la sécurité nationale et donc la sécurité civile également. Donc, en fait, j'ai voulu également conscientiser au niveau de la population sur cette question-là. C'est pour ça que j'ai fait cette opération de Locavor. Mais également, mon tour de phrase Locavor, je viens manger local chez vous, qui consiste à faire réaliser à des élus, à des associations, à monsieur et madame Michu, n'importe, un repas de fête local chic et pas cher. Donc, moins de 51 km, très, très bien présenté, à moins de 9,50 €. Et moi, j'arrive avec le pinard. Et autour de l'assiette, on peut tirer les fils de tous les autres sujets, dont celui des risques, de l'eau, de l'aménagement du territoire, de la gouvernance, des plans communaux de sauvegarde, de tout ça. Donc, en fait, je pars de l'assiette pour essayer de démontrer que le consommateur également est coproducteur de sécurité collective. Voilà, donc faire vite.
Ceux qui veulent en savoir plus peuvent acheter ton livre « Résilience alimentaire et sécurité nationale, oser le sujet et le lier à celui de l'effondrement ». C'est un livre enquête avec des témoignages de militaires, de gendarmes, d'agronomes, de tout un tas d'acteurs du monde agricole qui, outre les témoins de ce livre, dans tous ces mondes-là, ton message, j'ai l'impression, porte de plus en plus. Donc, félicitations et encouragement pour la suite. Laurent,
il y a 500 ans de boulot et pour tout le monde, c'est ce que je veux dire. Il y en a pour tout le monde et on n'a pas fini. On a à peine commencé.
Laurent.
Ok, donc merci Cyrus de nous présenter. Alors moi je suis gestionnaire des risques, on va dire ça comme ça. J'ai fait 27 ans en industrie, essentiellement sur ce qu'on appelle l'HSE, la santé, sécurité et protection de l'environnement, pour déboucher sur les questions de développement durable et de responsabilité sociale de l'entreprise. En 2014, j'ai rencontré Vincent Mignot et je l'ai aidé à fonder Adrastia. Et aujourd'hui, je suis le président d'Adrastia. Donc, Adrastia, c'est une association de citoyens concernés par les risques du futur, on va dire. Ce que grossièrement, on peut appeler ça effondrement. Bon, c'est un mot. Et que d'autres aiment à coller le petite étiquette de collapsologie. Mais bon, on n'est pas spécialement collapsologue, c'est une étiquette. J'ai arrêté de travailler en entreprise comme salarié d'une entreprise parce qu'on est coincé dans des structures et on ne peut pas dire ce qu'on veut et on ne peut pas aider bien. Donc j'ai voulu sortir de ça et maintenant je suis consultant indépendant. Et dans ce cadre, j'aide les organisations publiques ou privées à essayer de s'adapter, de tenir compte des réalités qui changent parce que le monde change. Très vite, il a toujours changé, mais là, il change de plus en plus vite. Je pense que depuis la pandémie, tout le monde a compris que ce que je racontais depuis un moment, ce n'était pas des paroles en l'air. Et donc, voilà, j'ai rejoint les trois mousquetaires.
Collapsus, un ouvrage que tu as co-dirigé avec Laurent Testot. C'est passionnant, hein, 40 auteurs, 40 chapitres sur, on va dire, le thème des limites planétaires pour faire large. 40 auteurs qui ne sont pas forcément sur la même ligne. Il y a Gaël Giraud, il y a Pablo Servigne, il y a Arthur Keller qui est ici, il y a Alexandre Boisson qui est ici, il y a Jean-Marc Gancil qui parle des océans, il y a Frédéric Danhé qui parle des sols, il y a Pierre-Henri Gouillon, professeur au Musée national d'histoire naturelle, qui parle de biodiversité. C'est vraiment passionnant, je le recommande. Chaque chapitre est vraiment un plongeon intéressant.
Je voulais dire juste sur ce livre, on a voulu faire passer deux messages. Un, c'est un problème systémique, et Arthur est là pour nous expliquer ce que ça veut dire, mais c'est vraiment, il faut plein de regards pour comprendre l'ensemble de la monstruosité du problème qui se pose à nous. Et deux, il y a des contradictions, mais c'est normal parce que le futur n'existe pas encore. Et donc chacun, on a une vision du futur qui est différente, mais tous ces futurs sont possibles. Donc forcément, il faut les exposer et puis en parler. On a un article sur le transhumanisme. Je me sens pas spécialement transhumaniste, mais voilà, il y a des choses qui existent. Donc ça présente tout ça et je pense que c'est assez rhumant. J'ai eu que des critiques positives sur ce.
Chapitre qui parle du transhumanisme, mais sans pour autant nier les limites planétaires, sans pour autant se raconter des histoires sur le fait que les ressources sont infinies, etc. Donc en cela, c'est un article intéressant sur le transhumanisme, mine de rien. Arthur?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, effectivement, on se complète pas mal là, tous les quatre. On a des parcours assez différents. Et Stéphane disait qu'il partait de la partie alimentaire pour remonter finalement aux autres problèmes de résilience, de sécurité, etc. Moi, c'est plutôt le contraire. Je pars du système, ensuite je fais des zooms. Et notamment, un de ces zooms, c'est effectivement sur la partie de résilience alimentaire. Donc, moi, je suis un spécialiste de l'analyse systémique. Donc, nécessairement, pas mal d'entrées, pas mal de choses différentes, très multidisciplinaires à la base. Analyse systémique qui s'applique aux limites et aux vulnérabilités des sociétés modernes, et puis aux risques, on va dire les nouveaux risques majeurs, on pourrait appeler ça. Et face à ces risques, les stratégies de résilience globale des sociétés, mais avec un zoom spécifique sur les territoires. Voilà. Moi, je suis ingénieur de formation. J'ai fait des choses très différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails de mon parcours. Aujourd'hui, je suis conférencier, consultant et puis auteur. Et donc, j'enseigne ces choses-là, notamment les risques systémiques et les marques de résilience dans des écoles, des écoles d'ingénieurs, notamment. Enfin, parce que ça se pose comme ça, ce n'est pas un choix. Hein. Je suis OK pour intervenir n'importe où, dans n'importe quelle école, mais pour l'instant, c'est les écoles d'ingénieurs qui font appel à moi. Je travaille comme expert auprès de deux agences publiques, l'ADEME et puis le CEREMA. Et puis, j'accompagne. Au-delà de ces formations, j'accompagne certaines collectivités depuis peu de temps, mais notamment la ville de Bordeaux plus récemment, dans l'élaboration de visions, on va dire, et de roadmap, hein, de feuilles de route lucides et inspirantes dans la mesure du possible sur des questions de stratégie pour orchestrer des mutations. Voilà, tout ça avec le thème de la résilience qui est central à tout ça, mais qui est un thème véritablement qu'il faudra sans doute définir ou redéfinir, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui reprennent ce terme aujourd'hui de résilience, mais qui le font pour justifier un maintien du système existant, des évolutions à la marge. Et en fait, la plupart des gens que je vois utiliser le mot résilience le font mal, volontairement ou pas, mais consciemment ou pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de récupérations de ce terme qui sont véritablement pas des avancées dans la bonne direction. Et ça m'énerve profondément, je dois vous l'avouer, parce que du coup, voilà, il y a une instrumentalisation de ce nouveau terme qui est un buzzword dans certains secteurs, dans certains univers, pour faire des choses qui ressemblent beaucoup à du business as usual, finalement.
C'est d'ailleurs pas tout à fait encore clair pour tout le monde, y compris au sein des collectivités qui ne sont pas forcément pour le business as usual, ce que c'est que ce terme de résilience. Est-ce que c'est un nouveau terme pour développement durable? Est-ce que c'est de la gestion de crise? On va en reparler. Tu es aussi auteur de l'un des chapitres dans Collapsus. Tu es auteur également d'un chapitre dans L'effondrement de l'Empire humain, un chapitre aux côtés d'autres chapitres écrits par des gens comme Vincent Mignerot, Pablo Servigne, le climatologue Jean Jouzel, et ton meilleur ami Nicolas Cazot, hein. Donc, je dis ça ironiquement. Et puis, tu as aussi fait pas mal de vidéos dont on va mettre les liens là en dessous en commentaire. Par exemple, pour la série Next, une vidéo qui a fait plus de 300 000 vues, je crois. Hein, donc, on partagera ça.
On frôle le demi-million, là.
Ah, bravo. Oula, j'avais pas le dernier coup.
Il y a deux vidéos. Là. Il faut sommer, il faut faire la somme entre la vidéo en français et la vidéo en anglais. Si tu fais la somme des deux, on doit pas être loin.
Voilà, une vidéo qui propose une typologie de récits d'avenir et de manière de voir les interactions entre notre croissance et les limites planétaires. Alexandre ?
Merci pour cette invitation. Et puis, je suis content de retrouver tout le monde. Alors, moi, mon parcours, c'est celui d'un ancien policier national, mais un peu comme Laurent, moi, j'aime pas trop être empêché de faire ce que j'aime. Et dès qu'on m'empêche de penser, c'est pas possible. J'ai justement une vision un peu systémique, holistique, c'est-à-dire essayer de voir à 360. Et quand on me force à voir en segmenté, ça me fait vraiment, ça m'empêche de pouvoir m'exprimer, de m'épanouir. Alors, c'est pour ça que j'ai quitté la police, mais pour parler rapidement de mon parcours, j'ai connu donc trois axes majeurs dans la police. La police de proximité, qui était un truc absolument formidable, c'est être dans les quartiers, parler avec les gens, j'ai trouvé ça génial. Ça n'empêchait pas d'être efficace justement sur la résolution des problèmes, mais il y avait un dialogue. Deuxième axe, ça a été la BAC Nuit Paris. Donc là, on n'est pas tout à fait sur la même façon de procéder. C'est-à-dire, on arrive quand c'est vraiment très chaud. Et là, il faut. Alors, à cette époque-là, hein, 2000, moi, je ne connais plus la BAC d'aujourd'hui. Donc, il ne faut pas confondre comment ça se passait avant et comme ça se passe aujourd'hui. Et là, c'était un peu les derniers recours hein, avant que le RAID intervienne sur encore plus chaud. Mais bref, c'était ça. Donc moi, la violence, je l'ai vue. Le sang coulé dans les rues, je l'ai vu. On ne peut pas me raconter n'importe quoi sur ce que c'est qu'une foule qui panique. Bref, donc j'ai une vraie expérience de terrain là-dessus. Mais je n'y suis pas resté très longtemps. J'ai vite intégré après le service de protection des hautes personnalités. Et peu de temps après, le groupe de sécurité du président de la République, où je suis resté 9 ans. Donc c'est là où j'ai vraiment su me former et être formé par des gens absolument formidables sur comment on protège l'élite, comment on protège un président, sauf que je suis parti. Je suis parti en 2011 parce que moi, la guerre en Libye, ça a été un traumatisme de me dire qu'on faisait encore autant de guerres pour le pétrole sous des drapeaux démocratiques, soi-disant. Quand on voit la Libye ce que c'est aujourd'hui, on voit le retour de l'esclavage, mais on ne voit pas vraiment la démocratie. Et j'en ai eu marre de tout ça. Et j'étais allé au bout du bout de ce que je pensais pouvoir faire au GSPR, je me suis dit, autant que ce savoir-là serve ailleurs. Mais je ne savais pas encore trop comment. Mais en tout cas, en 2011, je suis parti. Je suis même parti dans le Caucase. Et il y a de ça 5 ans, je terminais le livre de Mathieu Ozano depuis l'Azerbaïdjan, pays du pétrole et du gaz. Et c'est là où j'ai compris vraiment la systémique. Ça m'a amené après à étudier ce que disait Pablo Servigne, plus précisément encore Laurent Hayer et Arthur Keller. Et là, je me suis dit, oui, là, effectivement, le moyen de faire quelque chose, c'est de créer une association qui s'appelait et qui s'appelle toujours SOS Mer, que j'ai quittée. Donc, sensibiliser les élus SOS Mer, c'était ça, hein, sensibiliser les élus qui sont dans une situation dégradée, les responsables vers qui on se tourne quand il manque des choses, hein, quand il n'y a plus d'électricité, on se tourne vers le maire, quand il n'y a plus de nourriture, on se tourne vers le maire, parce que c'est le responsable du coin, et que ce soit une petite commune ou une grande commune. Donc, c'était pour ça, SOS Maire. Et puis, bon, j'ai vu que c'était trop intellectualisant, et moi, je suis malheureusement pas de... J'arrive pas, quand c'est trop intellectuel, je suis pas capé pour ça. J'ai besoin de vraiment agir sur le terrain, d'être au contact des personnes et de faire comme j'ai fait, comme je faisais à l'époque avec le GSPR, quand on était en bain de foule. J'adorais mettre à contribution les personnes qui nous entouraient dans un. Vous imaginez un déplacement avec un président, vous êtes les gardes du corps, mais vous êtes bien faible, hein, même si vous avez des soutiens policiers et des gendarmes disséminés dans la foule, vous êtes bien faible face au nombre. Et donc, le seul moyen, d'impliquer les personnes dans la protection du président, et ça fait sens. Donc, il y a une frange des Gilets jaunes très constructive qui a voulu créer Brigade du Crime, je les conseille aujourd'hui. Mais on en parlera un peu plus tard, ils font vraiment un boulot formidable de construction, de sensibilisation, qu'avec SOS Mer, on était trop limité à faire, parce que ce n'était pas assez des gens de terrain qui faisaient ça. Et puis, le vrai projet sur lequel je m'implique avec la porteuse du projet Existence B, ben c'est donc ce projet Existence B. Et Existence B, c'est OK, on lance des alertes, c'est anxiogène, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces alertes au final? J'en termine là-dessus. Il faut montrer à la société civile, comment on peut transcender les crises. On n'en est même plus à être résilient. Résilient, c'est bien beau, mais c'est pour chaque fois se relever pour refaire les mêmes erreurs, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est montrer l'exemple. Existence B, c'est faire vivre une micro-société de 150 à 200 personnes qui vont vivre une expérience de vie éco-régénérative, c'est-à-dire commencer à restaurer des écosystèmes et montrer l'exemple. Et voilà. D'ailleurs, Arthur connaît un peu le sujet. Voilà dans quoi je m'implique aujourd'hui, c'est-à-dire lancer des alertes, c'est bien, si on sait après orienter vers la solution.
En parlant d'alerte anxiogène, tu es aussi l'auteur de Face à l'effondrement, Si j'étais maire, qui est un petit peu aussi le thème du jour, que tu as écrit avec André-Jacques Holbeck.
Économiste.
Oui, économiste. Tu explores en particulier deux scénarios de crise systémique. On aurait pu en imaginer d'autres, mais une sur une rupture brutale de l'approvisionnement pétrolier, une autre sur l'effondrement d'une banque systémique et du système financier mondial, ce qui pourrait induire tout un tas de conséquences en chaîne, y compris sur notre système alimentaire. Et face à tout ça, selon toi, on est un peu à poil.
On est complètement à poil au regard des cyberattaques qui se multiplient. L'IA se met à cyberattaquer aussi. Et quand on voit la capacité d'anticipation de ceux qui sont en charge aujourd'hui pour anticiper des crises systémiques de ce type, il y a vraiment à mobiliser la population pour qu'on transcende ces crises.
Justement, alors ça fait le pont vers notre deuxième point. Alors, parlez-moi de votre formation anticiper les risques majeurs. Un peu d'où est venue l'idée? Pourquoi avoir choisi de s'adresser à l'échelon des collectivités territoriales? Et quels sont un peu les principaux messages que vous livrez? Peut-être, enfin, on change un petit peu l'ordre, si on commence par toi, Laurent. Ton micro est coupé, Laurent.
Je suis arrivé, oui, mon micro était coupé. Je suis le dernier de la bande, comme je disais, je suis le d'Artagnan des trois mousquetaires. Là. Mes trois camarades avaient réuni leurs compétences pour faire quelque chose. Et donc je les ai rejoints. L'idée, c'est vraiment de donner la connaissance, alors déjà des risques qui existent, parce que dans une équipe communale, le maire a déjà plus ou moins conscience qu'il y a des risques, puisque quelque part on lui a parlé de sa responsabilité civile et pénale, il sait à quoi il s'engage. C'est pas sûr que la petite volontaire qui s'était mis là pour faire de l'action sociale ou s'occuper des anciens ou des choses, avait réalisé que, je ne sais pas, il y avait une conduite de gaz qui descendait du Nord-Pas-de-Calais et avec un rayon de sécurité de 300 mètres, par exemple. Donc, j'ai eu le cas dans une formation. Donc, il y a ces risques actuels. Et puis, il y a des risques que je ne te détaillerai pas parce que tu les connais, qui arrivent là dans le tuyau et qui ont commencé à se déverser sur notre tête, hein, la pandémie n'étant que l'un des nombreux scénarios catastrophes qui nous attendaient. Et les autres ne sont pas annulés à cause de celui-là. Hein. Ils continuent à avancer dans le pipeline.
Donc, tu penses le climat, l'énergie, le stress hydrique, l'érosion des sols.
Pas tout, quoi. Hein. On va pas refaire le topo. Et donc l'idée, c'était d'expliquer aux maires leurs responsabilités, mais au fait, déjà, dans les faits, et là on s'appuie sur les travaux d'Alexandre de SOS Maire, parce que SOS Maire a quand même une utilité, d'avoir défini bien le périmètre des choses, et de voir les outils qui existaient, de façon à dire, on ne va pas vous inventer, on ne va pas faire de vous des transformateurs à partir de zéro, vous avez déjà des outils et des responsabilités. Et donc, on fait de la formation sur ce point. Et ça, c'est plutôt l'après-midi, où on explique, entre autres, plan communal de sauvegarde et DICRIM. Et là, 95% des gens que j'interroge en début de formation, quand je leur dis « vous savez ce que c'est un PCS et vous savez ce que c'est un DICRIM », font des bulles. Pourtant, ce sont tous des élus, et c'est dans la réglementation que ce genre de choses doit être mis en place souvent.
Pour ceux qui ne savent pas, quand même, PCS, plan communal de sauvegarde, voilà. Donc sur le une sorte de document qui prévoit la réaction de la commune en cas de tel ou tel aléa ou crise. DICRIM, je vais le tenter, document d'information communale sur les risques majeurs, qui est une sorte de document d'information des populations sur ce qu'il est attendu d'eux et quoi faire en cas de telle ou telle crise. Voilà, je referme ça. Voilà. Ouais, pardon, je te laisse poursuivre.
Non, mais je ne vais pas tenir le crachoir tout seul. Alexandre l'a bien expliqué, la population est un acteur, et en cas de crise, c'est même l'acteur principal, et on peut l'avoir avec soi, si on l'a prévu, si on l'a éduqué, informé, ou on peut l'avoir contre soi avec des fourches. Non, ça, c'était en 1789, après 2 années de famine. On l'a contre soi et ça devient un anti-acteur. C'est quelqu'un qui pose plus de problèmes qu'il apporte de solutions. Donc voilà, on essaye d'aborder ça, c'est qu'une journée. Anticiper un risque, je veux dire, un homme averti en Valant 2 et une équipe communale en Valant 2, ça ne veut pas dire qu'on a forcément les réponses, mais déjà en ayant réfléchi potentiellement au problème, on commence déjà à réfléchir aux solutions potentielles et ça peut enclencher une démarche, une réflexion et une mise en œuvre de choses. Comme j'expliquais entre nous avant de commencer, la gestion de risque, ce n'est pas la bonne réaction au bon moment, c'est d'abord l'accumulation d'un capital de moyens qui peuvent servir et servir à plusieurs choses. Je veux dire, personne prendrait la mer aujourd'hui sans son gilet de sauvetage. Il n'a pas forcément l'intention de passer par-dessus bord, mais bon, un gilet de sauvetage, ça peut être utile. Un extincteur, ça ne veut pas dire qu'on va foutre le feu à son usine. C'est quand même qu'on a prévu que ça pouvait brûler et il vaut mieux l'avoir avec soi. Ouais. Ce n'est pas le moment, parce qu'on a voulu faire de l'optimisation financière, de se dire « non, mais c'est pas grave, on en commandera un d'occasion sur eBay le moment venu quand il y aura un départ de feu. » Quoi. On l'a en avance, on l'a réfléchi, on a regardé comment ça pouvait se faire, on s'est préparé. Et voilà, c'est ça qu'on voudrait enclencher. Enfin, moi, c'est ça qui m'intéressait dans la démarche, c'était enclencher la réflexion.
Non, c'est vous donner des points de repère, en quelque sorte, apprendre aux gens à pêcher plutôt que pêcher à leur place, leur donner les bonnes clés de lecture, leur présenter un peu les chantiers qui s'offrent à eux et qui voient l'étendue du travail à faire, que parfois ils ont peut-être déjà enclenché, et puis ils peuvent aussi voir, ah bah tiens, ça c'est plus ou moins en bonne voie, ça en revanche, on est à la rue, il faut qu'on s'y mette. Alors on va faire Arthur, puis Alexandre et finir sur Stéphane. Toi Arthur, qu'est-ce qui t'a particulièrement motivé dans cette formation, toi qui travailles notamment sur les récits d'avenir, qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette démarche?
Cette démarche effectivement qu'on a co-construite, hein, cette démarche elle est intéressante, elle est surtout à mon sens importante. Parce que, quand bien même c'est évidemment utile de sensibiliser, et même plus que ça, de mobiliser tout le monde, hein, le particulier lambda, on va dire, mais également le chef d'entreprise et les institutions, etc. Bon, on est là sur les élus locaux, et les élus locaux, tout de même, sont les gens qui font partie des gens, mais enfin, ils sont quand même en haut de la liste, qui ont des gros leviers d'action au niveau territorial, et pour de multiples raisons, le niveau territorial est le niveau où on peut le plus agir pour préparer justement cette résilience. Alors, il ne s'agit pas que ça reste stricto sensu une petite commune par-ci, une petite commune par-là. Évidemment, il faudrait que ça se généralise. Donc, on travaille non seulement à former des élus locaux à un endroit, mais également à essayer de faire en sorte que ça fasse des petits et que ça se répande et qu'il y ait une dynamique qui s'enclenche. Donc, c'est ça le but. Donc là, on est véritablement, oui, sur des gens qui ont des responsabilités et qui, souvent, on s'en rend compte, ne les connaissent pas ou les connaissent mal, savent mal ce qu'ils ont l'obligation de faire et connaissent mal certains leviers qui sont à leur disposition pour agir, mais surtout des gens qui n'ont pour la plupart pas pris conscience de la problématique, en tout cas pas dans sa dimension systémique. Et c'est pour ça que cette formation, comme on a été plusieurs et qu'on a, comme je disais au début, qu'on a des profils très, très complémentaires avec moi qui suis vraiment systémicien, avec ensuite Stéphane Linou qui est vraiment, bon, il ne fait pas que ça, mais il est quand même très bon, il en parlera lui-même sur la question alimentaire, qui est un point d'entrée, qui est certainement le meilleur point d'entrée pour ensuite parler de résilience au sens large. Voilà, en tout cas, il y a énormément de choses à faire et ça parle à tout le monde. Ce n'est pas clivant, ce n'est pas partisan sur le plan politique ou quoi que ce soit. On a ensuite Alexandre qui est vraiment, sur de l'opérationnel, qui est quelqu'un qui sait ensuite sur le terrain mettre en place des choses. Oui, je disais, Stéphane, j'ai oublié de dire qu'il a la dimension un peu justement élus locaux et politique locale, mais il va en parler. Et puis Laurent, sur la partie, il connaît bien les risques, il connaît bien les entreprises, il connaît bien les industriels. Donc vraiment, on se complémente vraiment très bien. Et c'est ça qui est intéressant. Et on retrouve tout ça dans la formation, qui est un peu une formation en entonnoir, où on part relativement large. Ça, c'est plutôt moi, je dirais, sur des risques vraiment systémiques, des risques d'ensemble. On comprend vraiment dans quelle situation générale on se trouve. Puis on va procéder ensuite par des espaces sur certains pans des problématiques, jusqu'à faire un zoom sur les territoires au sens large et éventuellement, à certains égards, le territoire où on se trouve le jour J. Parce qu'évidemment, si on reste au départ, si tu veux, si les gens qui suivent la formation, des fois, sont un peu surpris parce qu'ils pensent que c'est un peu vaste, un peu hors sol, parce que ça les concerne pas. Ce sont des considérations trop larges. Mais cet entonnoir fonctionne bien. Et en l'espace de 2-3 heures, déjà, ils ont bien compris en quoi ça les concernait directement. Et puis ensuite, dans un second temps, on passe à des choses plus concrètes avec un zoom sur la partie alimentaire et puis sur les outils véritablement, les droits et les devoirs des élus, etc. Et ça devient beaucoup plus concret. Au début, d'ailleurs, c'est plutôt un cours magistral. Et puis ensuite, ça se transforme également en un atelier où les gens ensuite font les faits travailler. Et à la fin, on espère, en tout cas pour l'instant, ça marche plutôt bien, qu'ils ressortent de là avec quelques idées et quelques outils, quelques leviers concrets qui ne leur restera plus qu'à appliquer ensuite au quotidien, on l'espère. Voilà, c'est une formation qui est assez complète, donc, qui balaye beaucoup de choses, mais qui, à la fin, tout de même, a une véritable ambition de donner quelques clés d'action actionnables, là, maintenant, tout de suite, du jour au lendemain, à des élus. Donc, le but, ce n'est pas juste de faire de la théorie. Évidemment, on est vraiment dans le concret. C'est ça l'idée. Voilà, je pense que ça marche plutôt pas mal, on en discutera après, jusqu'à présent, même si, évidemment, les réactions peuvent être disparates. Il y a tout un éventail de réactions individuelles. Pour autant, globalement, une bonne réception pour l'instant de cette formation, des bons retours, et on espère que ça va changer des choses, effectivement. Voilà.
Tout à fait. Non, c'est une échelle très pertinente. On reviendra sur les leviers, mais on pense notamment au fait que les collectivités ont la compétence d'aménagement du territoire et de l'utilisation des sols. Donc, est-ce qu'on artificialise telle terre agricole? Est-ce qu'on imperméabilise telle zone humide avec les conséquences que ça peut avoir en termes de résilience face aux inondations, par exemple, et les conséquences en termes de résilience alimentaire. Elles ont des compétences de mobilisation des populations, de sensibilisation. Bon. Et puis, c'est pour faire un peu le pont vers Alexandre et Stéphane, qui trouvent aussi que les collectivités ont une part de responsabilité en matière de sécurité. Donc, même si la police et la gendarmerie sont de nature plutôt nationale, parlons-en maintenant, peut-être d'abord avec Alexandre, puis Stéphane. Et puis, Alexandre, si tu peux faire un petit peu court, parce que c'est pas un débat présidentiel, mais tu es un petit peu en avance en termes de temps de parole. Vas-y, Alexandre.
OK. Alors, le premier risque systémique que nous avons, il est sociétal. C'est le carriérisme, la consensualité. On ne dit pas les choses, on ne gêne pas les chefs. Et du coup, on manque d'anticipation. Et moi, c'est ce que j'ai voulu à contre-courant du système faire valoir avec face à l'effondrement si j'étais maire. Parce que l'idée est quand même qu'on s'est très bien reposé sur les maires, dans un sens, leur taper dessus dans un autre. Et on occulte aujourd'hui que le business as usual, l'économie telle qu'elle est construite aujourd'hui, le système mondialisé tel qu'il est construit, arrive à des moments où ça va dysfonctionner. Et donc, ça, c'est du global vers le local, ça a des conséquences. Et l'État s'est très, très bien coupé des têtes quand ça commence à dysfonctionner. L'État, c'est très bien faire ça. Quand il y a des problèmes sur un territoire, on dit que c'est de la faute du maire. Et moi, je les alerte, et grâce maintenant à cette formation qu'on a fait en commun, on les alerte sur l'article 121.3 du Code pénal. C'est quoi ? C'est le manquement à une obligation de sécurité. On sait très bien que les problèmes de pétrole, ce n'est pas qu'on ne trouve plus de pétrole, c'est qu'il y a un mécanisme économique qui, à un moment, peut nous priver de pétrole ou des cyberattaques qui peuvent faire dysfonctionner le système. Qu'est-ce qu'un plan communal de sauvegarde ? Qu'est-ce que cette méthode de protection des populations s'il y a moins de pétrole ? C'est la question qu'on pose. Et le jour où il y a un problème, où il y a des populations qui se mettent à se battre parce qu'ils commencent à manquer, parce que ça commence à manquer en local, et que justement il y a eu des émeutes, des armes qui sont sorties, on dira, mais monsieur le maire, tout en haut de l'État, parce qu'il faudra couper une tête, il faut trouver un responsable. C'était de votre responsabilité, regardez, c'est marqué dans les règlements que vous aviez à prévoir les crises majeures. Mais sauf qu'aujourd'hui, les nouvelles équipes municipales ou même les anciennes qui font des copier-coller de ce que faisaient les autres d'avant, ils sont sur un schéma de pensée où on n'anticipe pas les crises. À la télé, on nous dit, non mais toute la reprise économique, la croissance, ça reprend les amis. Ouais, ben non, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Dans les faits, il y a un autre monde qui n'est pas visible. On ne peut pas voir dans les infos de la télé des milliardaires. Il y a un autre monde qui est en train de changer, un monde géopolitique qui amène à des conséquences qui vont être dramatiques sur les territoires. Et nous, ce qu'on fait, pour libérer la parole à Stéphane, c'est dire attention, soyez proactifs. Rappelez-vous, vous les maires, vous les élus, de vos responsabilités. Rappelez-vous que la commune, c'est un commun, c'est avec des personnes. Et ces personnes, comme le disait très bien Laurent, ces personnes peuvent être une aide ou elles peuvent vous en vouloir à un point que vous n'imaginez pas. Et je citerai l'exemple de Geneviève Girard, maire de Porte-les-Valences. Rappelez-vous, ce n'est pas si vieux, 2019, des arbres qui subissent une sécheresse, donc on est sur un problème climatique, qui s'affaiblissent à cause de la sécheresse. Une forte chute de neige en hiver. Les arbres tombent, ça fait tomber les lignes. La maire, donc Geneviève Girard, est obligée d'appeler au secours Macron parce qu'elle ne sait plus comment faire. Les gens pètent un câble, un volailler perd ses volailles parce qu'il n'y a plus d'électricité. Il n'y a plus d'eau le premier jour, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau parce que pas d'électricité, pas de pompe qui fonctionne, pas d'eau. Vous imaginez les conséquences systémiques que ça peut avoir de ne pas anticiper ces crises, ces nouvelles crises. Eh bien, voilà ce qu'on fait, voilà le discours qu'on apporte, c'est dire… Vous serez toujours lâchés, vous les maires. Le jour où il va y avoir un gros bordel que Macron, si on imagine qu'il n'y a pas que Porte-les-Valences, mais que c'est une grande partie de la France qui est comme ça, Macron ne pourra pas répondre. Il ne pourra pas dire à EDF, ça commence à faire du bordel dans les médias, donc allez vite me réparer les lignes électriques. Ça sera impossible parce que ça sera trop répandu. Et à ce moment-là, comme l'État sait le faire quand ça devient trop craignos pour lui, il y aura maintenant… Les préfets et les maires qui n'ont pas fait le boulot, on leur coupe la tête. Et nous, c'est en ça qu'on prévient. Voilà. Mais je suis toujours le plus anxiogène de la bande.
Non, mais alors, je ne sais pas si… Alors, oui, effectivement, c'est anxiogène, mais c'était loin de, entre guillemets, délirer seul dans ton coin. Il y a des scénarios que tu évoques, par exemple, le risque que, en cas de crise pour raison X ou Y, et avec un emballement un peu incontrôlé, les policiers et les militaires, ce sont des êtres humains, et ils pensent avant tout à protéger leur famille, et avec le risque de la défection de service, donc qu'ils ne se pointent pas au boulot. Tu en parles, mais tu n'es pas le seul à y réfléchir, puisque voilà, il y a aussi des policiers, des gendarmes et des militaires qui, en interne, ont ce genre de réflexion sur un avenir qui pourrait présenter des risques d'une nature nouvelle, qui est que la famille de leur force enfin de leurs soldats ou autres, sont directement menacés. Donc voilà, un militaire qui part en Afghanistan aujourd'hui, sa famille n'est pas directement menacée. Là, on parle un petit peu d'autre chose, donc c'est... Voilà, bon, allez, c'est pas pour faire paniquer si, les gens, mais ça fait partie du coup. Est-ce que le territoire est préparé, en quelque sorte, à ce genre d'éventualité? Alors, comment dire, ne pas... à contrôler, mais éviter les phénomènes de panique au sein de la population et que les gens restent soudés au sein de la commune.
Et Ali Fontana, je vous invite à taper sur LinkedIn son nom et trouver qui c'est. Il m'a autorisé à en parler. Mm. Il a écrit un petit manifeste sur le blackout. Lui est militaire et il explique comment ça se passerait pour lui, sa famille. Est-ce que, en fin de compte, quand on est militaire et qu'on sait que sa famille est en péril parce que les supermarchés et les supérettes sont vides, et donc la famille appelle au secours, est-ce qu'on obéit aussi bien à son commandant d'unité? Est-ce qu'on obéit aussi bien? C'est ça. Et là, je vais laisser la parole à Stéphane Linou, qui va parler du continuum sécurité-défense, mais juste avant, 28 mars, donc c'est récent, 28 mars 2021, Bolène. On se retrouve donc avec les brigades d'ICRIM à exposer donc, les produits locaux, à parler des plans communaux de sauvegarde, enfin faire la sensibilisation des populations qui doivent être faites par les préfets et les maires. On le fait nous parce qu'on est citoyens et on a aussi le devoir de le faire. Et on a des gendarmes qui viennent se dire, se renseigner et dire mais pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette histoire de, on pourrait manquer de nourriture? Et là, Stéphane explique à quel point le continuum sécurité-défense dépend aussi de notre capacité à nourrir les populations en local.
Allez, Stéphane, tu es déjà intervenu sur Plan B où tu avais entre autres expliqué que jadis, ce qu'étaient les maires, donc les consuls, avaient en charge quatre formes de sécurité. Si tu veux, tu peux nous réexpliquer cela brièvement, mais aussi en quoi cette formation te permet d'aller diffuser ce genre de message et de mobiliser les élus au regard des responsabilités qui, à tes yeux, leur incombent.
Comme le sketch des inconnus qui leur décombe, c'est beau. En fait, c'est aussi l'occasion, hein, de, on va pas dire de rappeler, parce qu'on ne peut pas oublier quelque chose qu'on n'a jamais su. En fait, on a commencé par courir après la nourriture en tant qu'espèce. Ensuite, on s'est posé, on l'a fait pousser autour de nous lorsqu'on a inventé l'agriculture au néolithique. Ensuite, pour sécuriser justement ces récoltes, c'est grandement pour ça qu'on s'est constitué en cité, en village, et c'est là qu'on a inventé l'aménagement du territoire. Donc, on a transformé l'espace en territoire. Donc, après avoir couru, après cette nourriture, après l'avoir faite pousser autour de nous, et après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous, tant que l'os réalise le coma, le jusqu'à quand, les risques et tout ça. Et cette question-là était ce sur quoi était basée la légitimité justement politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge. Il y avait quatre sécurités. Sécurité extérieure, il fallait ériger et entretenir les remparts, il fallait se protéger des envahisseurs. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies, mettre en place l'assainissement collectif, tout ça. La sécurité intérieure, l'ordre public, parce qu'avant qu'on fabrique et qu'on invente récemment les États-nations, l'ordre public, il n'était fait qu'en local. Et la quatrième sécurité, c'était la sécurité alimentaire. Il fallait que, quoi qu'il arrive, il y ait assez de nourriture dans l'enceinte de la ville. C'est pour ça qu'avait été créée la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Donc, en fait, cette question d'alimenter les populations, de manger, était dans les têtes collectives, les têtes politiques, c'est-à-dire qu'il y avait toute une organisation autour, et notamment sanctuariser du foncier qui était nourricier, mais c'était également dans les têtes individuelles, c'est-à-dire que chacun avait son bout de jardin. Et donc cette question-là, au fur et à mesure de la multiplication des échanges dus au développement des énergies faciles, charbon, pétrole, énergie à partir desquels notre espèce ne s'est jamais développée. À partir du moment où on a eu accès à cette énergie, on a transformé nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire perfusés par les balais des camions de la grande distribution. Donc la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui était Bon, allez, maintenant que le transport ne coûte rien, je vais me focaliser sur une production dans le territoire et je vais abandonner les productions pour lesquelles je me sens le moins bon. Donc, c'était un territoire égale une ou deux productions phares pour arriver maintenant à des taux d'autonomie alimentaire de nos territoires à peu près égaux à 2%, c'est-à-dire que 98% de ce qu'on fait venir, de ce qu'on consomme, est importé, donc avec des flux, et maintenant ces flux sont vulnérables. Et là, on peut, s'il y a une cyberattaque, justement sur la chaîne logistique, des blocages, une pandémie ou autre, là, on voit si localement, nous sommes assez préparés pour ne pas se taper dessus. C'est-à-dire qu'il y ait assez de production localement, assez de stock, assez de liens entre nous, que des gens cuisinent et tout ça. Donc, tout est à refaire. Et en fait, cette question-là est complètement donc, sortie du champ politique et ce n'est pas les lois de décentralisation de 81 qui, en redonnant les pouvoirs d'affectation du foncier beaucoup plus conséquent aux maires, ce n'est pas pour autant que cette question de nourrir les populations est revenu dans le champ politique, puisque, entre-temps, on a des maires, à l'image du reste de la population, qui sont nés le ventre plein. Donc, en fait, la question de nourrir les populations, de se nourrir, quelque part, elle est considérée comme acquise à tort. Donc, en fait, la question de la sécurité, au sens large, la sécurité, ce n'est pas les drones et les flashballs. Hein. Non, non, c'est la partie comme un iceberg, c'est la partie qu'on ne voit pas. C'est tout ce qu'on met en place pour ne pas arriver à de l'insécurité, c'est créer des environnements sécurisants. C'est-à-dire que s'il y avait, par exemple, une cyberattaque sur la chaîne logistique, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait imaginer aux élus dans le cadre du petit stress test qu'on le fait tous les quatre ans, Le vigile de supermarché serait débordé, qui ferait appel à la police municipale qui serait débordée, qui ferait appel à la police nationale qui serait débordée, qui ferait appel à la gendarmerie nationale qui serait débordée, et qui ferait appel au reste de l'armée qui serait affaibli. Donc, en fait, on est capable, pour soulager notre système de santé actuellement, de mettre en place des mesures barrières pour éviter la saturation du système de santé. Pourquoi on ne le ferait pas ? Pour soulager notre système de sécurité, notre continuum sécurité-défense. En mettant en place des mesures barrières qui seraient de préparer les populations, d'augmenter la production locale et tout ça. C'est la même logique. Et dans mon livre enquête, il y a des militaires très clairement, des policiers, des élus ou autres, qui ont très clairement dit oui, effectivement, le continuum sécurité-défense serait débordé, il y aurait des troubles à l'ordre public, puisque nos territoires ne sont plus autonomes et nos populations ne sont au niveau alimentaire et nos populations ne sont pas préparées et les perfusions sont aujourd'hui vulnérables. Donc en fait, soit on écoute les avis et les alertes de ces gens de l'art, soit on continue à mettre la tête dans le trou et on se fait avoir le coup d'après. Parce qu'en fait, l'élu à portée d'engueulade, qui c'est le maire. Et là, ce qu'on leur amène dans le cadre de la formation, c'est vrai que quand ils comprennent qu'ils peuvent avoir des coups de fourche de la population, puisqu'on leur démontre que c'est un sujet, ce n'est pas un sujet extraterrestre, mais une fois qu'on a dit ça, ils se disent « mais on a encore plus peur d'autres fourches, ce sont les fourches codines de l'administration. Est-ce que Papa État va m'autoriser à penser à cette question ?» et à traiter cette question dans des documents qui existent déjà. Eh bien, nous, on est là pour ça. On leur montre qu'il y a le plan communal de sauvegarde qu'ils peuvent enrichir avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire sans se faire taper sur les doigts de la part du préfet. Donc, tout ça, c'est constructif et ça met en mouvement. Et ce n'est pas du repli sur soi, bien au contraire. Ce sont des mesures de protection qui peuvent être déclinés dans ces plans communaux de sauvegarde pour atterrir, pour arriver à du terriblement concret. Mettre en place des jardins communaux, favoriser l'installation d'agriculteurs, mettre en place des PAT, des projets alimentaires et territoriaux, basés sur le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire, et après on met en mouvement tout le reste. Donc en fait, tout ça c'est positif, ce n'est pas du repli sur soi, et c'est de la sécurité préventive. Et avec tout ça, on parle déjà de sensibilité de droite, on parle déjà de sensibilité de gauche, ça concerne tout le monde et c'est dans un document qui existe.
Pour aller dans ton sens, alors que bon, on n'est qu'en 2021 et on a encore relativement du pétrole, le climat est relativement encore clément, quoique ça fait quelques années de sécheresse consécutive qui commence à gêner les agriculteurs et que les rendements agricoles plafonnent depuis une vingtaine d'années, hein, sur les grandes cultures. Mais bon, mettons qu'on est encore dans une situation de relative abondance. Et pourtant, donc ce qui s'est passé en mars dernier, d'après une enquête du Figaro, qui est quand même pas non plus un journal particulièrement marqué collapso-décroissantiste, c'est qu'il y avait une cellule de crise, puisque en raison de l'absentéisme engendré sur toute la chaîne agroalimentaire, parfois allant jusqu'à 50% d'absents dans des entreprises comme Barilla France, hein, on n'était pas très très loin du rationnement. Et le plan suivant, si encore ça durait quelques semaines, c'était de faire appel à l'armée. Donc, ce plan B ou C, je ne sais pas, de faire appel à l'armée, et ça, je fais écho à un article de Stéphane Audran qui est apparu dans Theatrum Belli sur le mythe de la levée de masse, où d'après lui, et d'ailleurs beaucoup de militaires ont validé son propos dans les réseaux sociaux, et quand je dis militaire, c'est un certain grade. Ça n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a ni les effectifs suffisants, ni l'emprise territoriale, ni les conséquences pour mobiliser des milliers de militaires pour conduire les camions ou aller faire de l'entreposage ou que sais-je. Donc ça, il faut se le sortir de la tête que tout est prévu dans tous les cas de figure. Là, voilà, ce n'est pas le cas.
Ce sont des faux filets de sécurité. Les faux filets, il n'y a rien d'alimentaire là-dedans. Et c'est vrai que, en fait, nos militaires auraient été transformés en caissières. À mon avis, ils ne sont pas là pour ça, et voilà.
Non, puis il n'y en a pas assez, quoi. Ça, c'est... Maintenant, c'est l'armée.
Géopolitiquement, c'est une catastrophe. Géopolitiquement parlant, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, on est dans un système de prédation des dernières ressources tarissables. On va jouer les muscles avec des grandes puissances nucléaires et on est à ce stade de faiblesse dans notre propre pays où notre armée serait désemparée. Mais ça ressemble à la campagne de Russie de Napoléon qui n'avait pas prévu la bouffe.